DW. Économie et développement.
Les start-up pour une stimulation exceptionnelle de croissance économique en Afrique. Considérée comme l'économie continentale à la croissance la plus rapide au monde, le climat socio-économique et politique de l'Afrique a favorisé une culture de l'entrepreneuriat et de l'entreprise dans presque tous les pays. L'essor des start-up est devenu un moteur de la croissance économique, avec des conditions favorables encourageant l'augmentation des investissements. On croise dans ce numéro les cas de la Guinée et de la République démocratique du Congo. Et puis, le Burundi qui fait l'expérience d'un nouveau mode de gestion des finances publiques basé sur la logique de performance et de plus de transparence, mais qui fait face aussi à d'autres contraintes. On en parle dans la seconde partie de ce magazine. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodiao au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
DW.
Elles deviennent de plus en plus des acteurs importants des économies africaines. Les start-up, c'est d'elles qu'on parle, ont un énorme impact sur les économies de plusieurs pays, démontrant ainsi leur potentiel à stimuler la croissance et à propulser le continent vers une puissance économique. L'Afrique dispose d'une population jeune qui met en évidence l'immense potentiel d'innovation, d'esprit d'entreprise et de croissance économique. Cette population fournit également une main-d'œuvre abondante et consciente qui permet aussi d'améliorer les offres des nouvelles entreprises, ce qui favorise l'attraction davantage d'investissements directs étrangers et encourage les autorités africaines à investir dans des stratégies qui réduisent les risques d'investissement, tels que la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'éducation et la stimulation de l'innovation technologique. La floraison de start-up émergents dans l'économie, parallèlement aux mécanismes gouvernementaux visant à attirer les investisseurs étrangers, contribue à améliorer la qualité de vie et réduire la pauvreté en Afrique, reconnaît Ibrahima Khalil Kaba. Mais le consultant en développement d'entreprises en Guinée relativise, car estime-t-il, le rythme de développement des start-up n'est pas le même dans tous les pays.
L'essor ou le rythme de développement des start-up ne peut pas être le même dans tous les pays. Cela s'explique par une disparité, un niveau d'engagement, les priorités en termes de politique publique dans ces pays. Certains pays sont largement en avance parce qu'il existe chez eux des législations, des réglementations et les mesures d'incitation, c'est-à-dire le cadre légal, fiscal et réglementaire favorable au développement de ce type d'entreprise. En revanche, en Guinée, nous peinons à mettre en place des outils et les mécanismes. Il faut aussi signaler que l'accès difficile au financement est un frein au développement rapide des start-up. Et enfin, le développement du capital humain n'en demeure pas moins. Et je pense sincèrement que c'est le facteur clé du succès qui va permettre de booster l'essor rapide de ces start-up en Guinée.
C'est justement ce qu'a compris en septembre 2022 la République démocratique du Congo en prenant une loi pour renforcer la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Ce renforcement du cadre juridique lié aux sociétés avec l'adoption d'une Start-up Act a l'avantage, selon Félix Mwangwangu, coordonnateur général de Ishango Startup Center à Kinshasa, de créer un environnement global favorable au développement des jeunes pousses technologiques.
On s'est très clairement rendu compte qu'il fallait vraiment assainir le climat des affaires au niveau de l'entrepreneuriat de manière générale. Et il fallait favoriser l'éclosion des start-up et des entreprises congolaises. Pour ça, il faudrait que déjà le terreau dans lequel se développent ces start-up soit favorable à leur développement et prenne en compte les spécificités congolaises en tant que telles. Donc c'est ce que nous avons fait dans le cadre de cette loi qui a été portée par l'écosystème congolais pour être en mesure de pouvoir mettre en place un cadre approprié, stimulant, permettant de pouvoir accélérer le développement des start-up et des entreprises congolaises.
L'adoption de la Start-up Act aura donc permis à la RDC de se positionner désormais comme un centre florissant d'innovation et d'entrepreneuriat, à l'instar des pays comme le Kenya, le Rwanda, le Nigeria, le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire, les fers de lance de la révolution des start-up sur le continent. Et pour contribuer à améliorer la situation en Guinée, Ibrahima Khalil Kaba a mis en place une structure de soutien à l'entrepreneuriat dénommée Trusty, qui investit dans les PME et les start-up à fort potentiel de croissance dans le pays.
Nous sommes un accélérateur de PME de start-up. Trusty supporte et investit minoritairement. On prend au maximum 7% de part comme contrepartie dans les jeunes pousses, les start-up à fort potentiel de croissance dans divers secteurs d'activité. Nous proposons également des services d'incubation aux besoins pour prendre en charge le besoin de ces entrepreneurs qui sont en phase d'idée. Et pour rendre tout cela opérationnel, nous avons mis en place un programme d'accélération, Trusty Accélérateur, dédié aux start-up, aux PME, vraiment focus tech. On a une académie de formation et de renforcement de capacité, Trusty Academy, où nous formons les jeunes aux nouveaux métiers de la technologie, de l'information et de la communication.
En Guinée, comme dans les autres pays, l'impressionnante capacité des start-up à générer des revenus et surtout leur attrait pour les investissements illustre leur potentiel à stimuler le PIB et la prospérité sur le continent.
DW.
Vous écoutez toujours Économie et Développement, direction le Burundi. Là-bas, on expérimente depuis une année un nouveau mode de gestion des finances publiques. Objectif, améliorer les performances et la rentabilité et mieux assurer la transformation de l'économie nationale. Mais dans son premier rapport, le gouvernement burundais affiche des difficultés à exécuter le budget-programme suite à l'inaptitude de certains des exécutants dans les institutions. Mais quelles sont les pistes de solutions pour permettre au pays de surmonter ces difficultés? Élément de réponse dans ce reportage, signé Antedites Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Le budget programme du Burundi, dont le premier rapport d'exécution a été présenté il y a 2 mois à l'Assemblée nationale, c'est une nouvelle méthodologie d'élaboration et d'exécution du budget de l'État qui découle de la mise en œuvre de la réforme de la gestion des finances publiques. Depuis une année, le gouvernement burundais a décidé d'adopter cet outil de gestion axé sur la performance et les résultats. Mais pourquoi? Le Burundi vise les standards d'émergence en 2040 et ceux de développement en 2060. Une vision réalisable, mais moins convaincante. Pour y arriver, une bonne gouvernance des ressources de l'État s'impose, selon Faustin Ndikumana, consultant en macroéconomie, s'inquiétant de la situation économique précaire, l'économiste propose des pistes de solutions.
L'endettement arrive à plus de 6 000 milliards de dollars, avec un endettement potentiel de 700 milliards pour financer le déficit habituel. Les exonérations, qui sont à plus de 100 milliards annuels, par ce demande de la révision du budget actuel après discussion profonde et impliquant le public. Et rétablir le ministère de la planification.
Le pays espère inverser la tendance avec en partie les investissements étrangers. Depuis plus d'une année, malgré les difficultés du gouvernement à exécuter la politique de budget-programme, il s'appuie sur la vision Burundi, pays émergent, une ambition claire, mais confrontée à des obstacles. Toutefois, de grandes opportunités d'investissement existent, rassure Evariste Ndayishimiye, pour permettre de relancer le Burundi sur les rails du développement. Le président burundais l'a d'ailleurs exprimé lors du dernier forum sur le développement économique.
Les opportunités d'affaires ne manquent pas au Burundi, surtout dans les secteurs stratégiques comme l'exploitation industrielle des mines, les infrastructures, l'agro-industrie, l'écotourisme, l'éducation professionnelle, les logements sociaux, la logistique, les frais de santé, l'énergie et les TIC.
Une population active avec une situation géographique favorable. Le pays dispose effectivement d'énormes atouts pour le décollage de son économie basée à plus de 80% sur l'agriculture. C'est ce que soutient également dans son analyse Christian Nivasumba, représentant de Trademark East Africa au Burundi. Une organisation est-africaine de soutien à la croissance du commerce à la fois régional internationale.
C'est une population jeune qui est prête à travailler. Nous sommes au milieu de l'Afrique centrale, au milieu de l'Afrique de l'Est et avec un accès au lac Tanganyika. Le Burundi peut être une plaque tournante où les exportations agricoles, le savoir-faire justement exporté.
Malheureusement, le gouvernement burundais se retrouve dans l'incapacité totale d'exécuter plusieurs projets de développement regrettés en octobre dernier. Abdou Dieng, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi, à l'occasion d'une rencontre avec les médias. Son avis a été soutenu quelques jours après par le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre burundais. Pour remédier à la situation, Frédéric Gahungu, président de l'Ordre des professionnels comptables au Burundi, suggère entre autres solutions la digitalisation des services publics et une mise à jour des compétences comptables dans les services financiers publics.
Au niveau des finances publiques, il y a la télédéclaration, les paiements, la facturation électronique, les finances publiques avec la digitalisation et les luttes contre le blanchiment, la corruption. Tous ces secteurs ne peuvent pas être menés sans la digitalisation. Ce système permet que tout comptable burundais soit mis à jour pour répondre à la mondialisation.
À l'instar de nombreux autres pays africains, le Burundi regorge de beaucoup de minerais. Certains sont déjà exploités et pour Prudence Blaro-Nyeretse, enseignant à l'université, des réformes du secteur minier devraient permettre de ranger le pays parmi les économies émergentes selon sa vision.
Il faut de l'équité dans la négociation et dans les contrats qui sont signés. Le renforcement de la gouvernance minière. Et ici, j'entends la réalisation de la valeur et la gestion des revenus. Il faut une transformation locale des substances minérales pour une augmentation de la valeur qui pourrait aussi faire augmenter l'employabilité de ce secteur. Le renforcement des compétences techniques au niveau local.
Et au-delà de ces pistes, le Burundi, s'il tient à se hisser au rang des pays dits émergents, doit aussi développer de bonnes performances macroéconomiques, une stabilité politique et institutionnelle, ainsi qu'un climat des affaires favorable aux investissements et un fort développement du secteur industriel. Anthony Testeni Lagira, à Bujumbura, pour la Deutsche Welle.
Merci Anthony Test. C'est avec ce sujet sur le nouveau mode de gestion des finances publiques au Burundi que s'achève ce numéro d'économie et développement. Merci également à Ibrahima Khalil Kaba, consultant en développement d'entreprise en Guinée, puis à Félix Mouagwangu, coordonnateur général de Ishango Startup Center en RDC. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine. Merci d'avoir été là.